Bonjour à tous et bienvenue dans un rendez-vous jeu très spécial. Je suis Patrick Béja et généralement, ce qu'on fait dans l'émission, c'est qu'on couvre l'actu gaming de la semaine. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu différent pour les raisons que vous connaissez. Et on va faire un truc nouveau. On essaye quelque chose et je pense qu'on va bien s'amuser. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais noter vos hot takes. Je suis allé sur le Discord principalement, mais aussi sur Twitter et Mastodon et Threads et tout ça, et Blue Sky, et je vous ai demandé vos hot takes et on va en parler et les noter. On va faire ça vite, hein, c'est vraiment pour le fun. Je vais pas discuter parce que chaque hot take presque pourrait donner lieu à une discussion interminable, mais on va faire ça un petit peu vite et les noter. Avant de se lancer, je vais quand même définir ce que c'est qu'une hot take. Parce que certains d'entre vous ne savent peut-être pas. On a deux définitions, je suis allé voir sur Urban Dictionary et sur Merriam-Webster, c'est un mot anglais bien sûr. Une hot take, selon Merriam-Webster, c'est une opinion qui est donnée un petit peu rapidement, qui est donnée avec des mots forts, souvent volontairement provocatrices ou sensationnalistes, dont le but est de provoquer une réaction. Donc, vous comprenez que quand je dis c'est pour le fun, évidemment, c'est pas forcément des trucs à prendre trop au sérieux, mais ça veut pas dire qu'il y a pas forcément un fond de vérité. Mais la hot take, c'est vraiment le truc qu'on donne sur les réseaux sociaux ou entre amis, genre un petit peu comme on le ferait à un comptoir de bar PMU, un truc du genre, de oh, toute façon, c'est tous des cons, ou, ah, c'est tout est pourri, plus rien ne va, avant c'était mieux, ce genre de truc. Et vous allez voir que vous en avez qui sont plutôt pas mal. Il faut que je les note, je pense que ça sera marrant, et j'ai un système de notation, j'aime bien les systèmes en trois notes, genre neutre, pourri ou super. Et pour une hot take, évidemment, un système bien caricatural, ça va convenir. Donc je vais les noter, elles vont être soit pétées, j'ai une hot take pétée, hein, c'est commun, ou j'ai pensé à dire peut-être claquer au sol, mais ça me ferait un petit peu trop passer pour un jeune, genre how do you do fellow kids. Une hot take acceptable ou une hot take glorieuse. Et vous savez que selon les préceptes du patrixme, j'ai toujours raison. Donc votre hot take va être jugée. Et vous serez obligé d'accepter mon jugement. Si c'est marrant, on refera peut-être ça. Je pense que c'est bon, même si ça risque de commencer à devenir répétitif, mais je pense que c'est un exercice rigolo. Et donc, on va se lancer tout de suite. J'ai gardé quelques grosses hot takes pour la fin, genre les plus grosses, les plus communes, je les ai gardées pour la fin. Et je prends donc des hot takes qui ont été essentiellement l'essentiel, la majorité. Elles sont venues de Discord, des amis du Discord. Il y en a quelques-unes de Twitter et des autres réseaux sociaux aussi, mais essentiellement c'est Discord. Et allez, on se lance avec la première hot take de Steph Sinalco, qui est un des producteurs de l'émission, hein, sur Patreon. Donc en particulier, je ne l'ai pas choisi, c'est lui qui a été là le premier. Et il nous dit, la VR, c'est la télé 3D du jeu vidéo. Au-delà de la curiosité technologique, elle n'a jamais rien apporté et n'apportera jamais rien. L'année de la VR n'existe pas et n'existera jamais. Je crois que si j'avais lu cette hot take il y a, avant la sortie du PSVR 2, avant fin 2023, on va dire, j'aurais peut-être dit qu'elle était bon, acceptable, mais pas garantie. Là, je pense qu'elle est peut-être un peu glorieuse, hein, cette hot take de Steph Sinalco. Dire que ça n'a rien apporté et n'apportera jamais rien, c'est l'aspect un petit peu hot de la tech, c'est sûr. Mais par contre, l'année de la VR n'existe pas et n'existera jamais. Je crois qu'elle est assez glorieuse, cette hot take. Je vois pas comment... Alors peut-être qu'à terme, il y aura d'autres types de technologies VR qui vont arriver, qui vont faire que, quand ça sera vraiment encore plus immersif et moins encombrant les appareils, ça reprendra, on réessayera, parce que je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant dans la technologie elle-même, et que l'idée d'être immergé dans un environnement virtuel, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Mais bon, à ce stade, en tout cas, la VR, je crois qu'elle n'a pas tenu ses promesses. Et au-delà du gimmick, on va dire, alors la télé 3D, c'est un peu violent quand même, parce que la télé 3D, ça n'a jamais pris et ça n'a rien apporté. Et ben, au-delà de la gimmick, au-delà du gimmick, c'est pas une catégorie viable de jeux vidéo sur le long terme. Validée. Alors, on va dire, oui, pas glorieuse, mais validée. Hop, là, on met le tampon validé sur la hot take. Et plutôt que acceptable, on va dire passable au milieu. Une hot take passable, donc ça sera pété, passable ou validé. Il faudrait que j'aie des petits effets spéciaux, genre pété, c'est du verre qui casse, passable, c'est validé, c'est genre un tampon, schlac, validé, très bien. Truffinew, toujours sur Discord, nous dit « Les lootbox sont clairement des jeux d'argent déguisés, hasard, loterie. » Alors, ça, c'est un débat. Je ne sais pas si c'est une hot take, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Je crois que c'est un débat qui est un peu passé, pas dans le sens où y a les lootbox n'existent plus, on a encore les FIFA Ultimate Team, tout ça. Mais par contre, je crois que c'est un peu réglé. Tout le monde est d'accord pour dire non pas que c'est des jeux d'argent, mais que c'est pas le meilleur business model. Le consensus, c'est on passe à autre chose, un petit peu. Ensuite, quand on dit des jeux d'argent, c'est un débat qu'on a déjà eu plusieurs fois, si on peut pas gagner de l'argent avec ces jeux, est-ce que c'est vraiment des jeux d'argent ? Alors oui, il y a des plateformes sur lesquelles on peut aller revendre tierce partie, machin. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens, les usagers habituels, ils jouent pas avec les lootbox pour gagner de l'argent. C'est pas comme si on allait au casino, parce que quand on dit jeu d'argent, c'est ça qu'on veut dire. Donc, c'est pas pour ça, même si c'est possible techniquement et que les éditeurs souvent le combattent. Oui, tu peux aller revendre ta skin de mitrailleuse de CSGO sur un site tiers, où tu pouvais, je crois que c'est plus possible. Je dirais que cette hot take, elle est passable, voire pour moi, je dirais qu'elle est presque pétée, quoi. Non, c'est pas des jeux d'argent. Même si ça ne vous plaît pas, je trouve que les lootbox, ce n'est pas des jeux d'argent. Et je dirais même, comme je l'ai dit il y a longtemps, et pendant longtemps, il y a des lootbox, des systèmes de lootbox qui peuvent tout à fait bien fonctionner. Et on peut faire le parallèle avec les jeux physiques. Magic, qui nous sort des lootbox physiques avec ses paquets de cartes, avec des nouvelles collections tous les 3 mois, c'est impossible de suivre. Ça coûte des centaines et des centaines d'euros si on veut acheter et avoir les bonnes cartes. Bah, ça pose pas autant de problèmes. Donc, je crois qu'il y a un petit peu de biais là-dedans, je dirais. Non, allez, moi, ma hot take, c'est que cette hot take, elle est pétée. Kling, le verre se casse par terre. Truffinew, pétée. Les lootbox, c'est pas des jeux d'argent du tout. Je vais faire ma propre hot take de vos hot takes. Frag Zero nous dit « Anthem est un très bon jeu et il me manque ». C'est marrant parce que c'est vrai qu'il y avait des aspects vraiment sympas à Anthem. C'était un jeu fun par certains aspects, le gameplay fonctionnait, et moi ça me fait penser à un autre jeu qui a été complètement assassiné et que vous connaissez, c'est Marvel's Avengers. Et Avengers, il y avait des aspects, l'aspect gameplay, c'était super. Ils avaient vraiment, je le répète dans l'émission, à cours de semaines et de mois, donc vous le savez, et je pense que vraiment le gameplay était excellent. Et en thème, il y avait un aspect très fun, l'aspect justement Iron Man et le gameplay. Alors le problème ensuite, c'est que les monstres étaient des sacs à PV, mais il y avait un truc fun, et c'est dommage que le jeu disparaisse. Je ressens exactement la même chose avec Avengers. Il y a des gens qui ressentent déjà ça avec Justice League, parce que bon, tout le monde le critique, on va dire ça comme ça, Je parle de Justice League. Il y a des gens qui l'aiment beaucoup, même si la plupart des gens le détestent. Donc, je dirais que cette hot take, elle est validée, Frag Zero. Anthem est un très bon jeu. Voilà, la vérité est rétablie. Anthem est un très bon jeu, par certains aspects. Il y a un petit astérisque à la hot take, parce que je crois que dans l'ensemble, il avait beaucoup de problèmes quand même. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un très bon jeu dans son ensemble, mais Anthem est un très bon jeu par certains aspects. Et puis, il te manque, ça c'est validé, le ressenti est personnel et on ne peut pas le nier parce que c'est ce que tu ressens toi. Val 200 ou 0200 nous dit « Les jeux ne coûtent pas assez cher, c'est pour ça qu'il y a des microtransactions, des season pass et des lootbox partout. » Alors ça, mon ami Val, je suis 100% d'accord sur le principe théorique. Tao Take, elle est méga validée. Les jeux vidéo ne coûtent pas assez cher. Le problème, alors, ne coûtent pas assez cher, je pense que c'est clair, parce que si on regarde, et on en a parlé souvent, si on regarde l'évolution du prix du jeu vidéo, eh ben, ils n'ont pas monté en prix depuis, quoi, 20 ans, quelque chose comme ça. Enfin non, c'est pas vrai, ils ont monté en prix avec cette génération, ils ont pris 10 euros. Mais même avec ça, on reste, si on prend en compte l'inflation, à un prix plus bas que l'équivalent il y a 20 ans, ou il y a même 30 ans. Donc en pratique, le prix du jeu vidéo n'a pas augmenté, si on prend l'inflation en compte, il a même baissé, alors que les budgets de production ont explosé. Et donc oui, c'est pour ça qu'il y a des microtransactions, il y a des season pass, des loot box, etc. Enfin, des loot box, il n'y en a plus trop, sauf dans les jeux de sport comme FIFA. Enfin, FIFA, EAFC. Mais le truc, c'est qu'il y a plus de joueurs, donc on en vend plus, c'est sûr. Et puis, il y a des jeux qui coûtent pas cher. Il y a des jeux qui coûtent presque rien. Il y a des jeux qui ne coûtent rien. Et puis, la monétisation se fait sur plus longtemps parce qu'il y a le numérique, donc on peut avoir des soldes, etc. Mais si on parle des gros AAA, oui, bah, évidemment, le prix de vente ne suffit souvent plus à rentabiliser les jeux. Et donc, il y a des microtransactions. Je mettrai un petit astérisque. Il faudrait qu'on rentre dans les comptabilité de chacun des jeux, parce que je suis sûr qu'il y a des jeux qui, sur le prix de vente du jeu lui-même, se rentabilisent, et puis on fait de l'argent en plus ensuite, parce que, vous le savez, les éditeurs et les développeurs se réveillent le matin et ils se disent « Mais on aime l'argent !» Et donc, ils en veulent plus, ça, c'est normal, mais je pense que, d'une manière générale, la tendance, c'est que tu peux pas rentabiliser vraiment ton jeu avec le prix de vente, et donc, tu rajoutes des trucs derrière. Et oui, il faudrait que les jeux coûtent plus cher, enfin, il faudrait. Les jeux ne coûtent pas assez cher, mais évidemment, tu ne peux pas monter le prix nominal. Si tu arrives à, je ne sais pas moi, 100 euros de jeu, bah là, c'est clair que ça va poser des problèmes. Le sticker shock, comme on dit en anglais, le prix sur l'étiquette, bah à un moment, si tu dis déjà, même qu'on approche, là, on est à 80. Quand tu approches à 90, 100, le chiffre fait peur. Donc, je ne sais pas si on va pouvoir monter. Tu te rends compte, 100 balles pour un jeu, bah non, ça va plus vendre. Ou en tout cas, le choc sera trop élevé. Je ne sais pas quelle est la solution là-dedans, mais c'est un problème, c'est évident. Donc, hot take, 100% validé, tampon sur la hot take de Val. Damaki nous dit « Les AAA sont tous beaucoup trop longs et de manière générale, toute l'industrie AAA et AA est bloquée sur les jeux à rallonge. » Écoutez, vous êtes extrêmement sage et judicieux dans le Discord. Hot take complètement validé. Est-ce parce que j'ai des enfants et que j'ai plus le temps de faire des jeux très longs, de me plonger dans des jeux très longs? C'est possible. Je crois que de plus en plus du public est d'accord sur le fait que les jeux... Comment dire? Un jeu long n'est pas forcément une mauvaise chose pour le jeu ou même pour les joueurs, à condition qu'il n'y ait pas du remplissage. Et je crois que ce qu'on reproche tous beaucoup, c'est l'obsession du jeu trop long. Parce qu'il y a du remplissage. Si c'est du cœur de jeu du début à la fin, très bien. Un jeu auquel je penserais, par exemple, c'est Last of Us Part 2. Pour moi, il n'y a pas de remplissage, très peu de remplissage dans Last of Us Part 2, parce qu'il tient son propos, même s'il est relativement long. Ce n'est pas un jeu à 200 heures, hein, mais c'est un jeu à quoi, 40 heures. Et il tient son propos. Mais ce n'est pas toujours le cas, et c'est né sans doute de l'obsession d'une époque où bah, on achetait un jeu tous les mois ou deux mois, il fallait que ça nous dure pour la somme quand on était jeune et qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, on regardait la rentabilité financière du jeu, et je pense qu'il y a un héritage de ça. Il y a aussi des gens qui regardent les choses comme ça aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, les gens qui mettent 70 euros dans un jeu, ils veulent en avoir pour leur argent et donc avoir 50-60 heures de jeu. Mais oui, je suis d'accord, moi de mon point de vue, les jeux, alors tu dis les AAA ou les AA, je pense que souvent c'est le cas. Les indés, c'est un petit peu différent parce que c'est des jeux un petit peu plus arcade souvent, et quand c'est des jeux narratifs, ben, on n'a pas les budgets pour faire plus long, donc on se limite dans le temps. Mais l'idée générale des jeux qui sont trop longs par principe, je suis d'accord, totalement validé, Damaki. Gandouille, toujours sur Discord, nous dit « Il pourrait y avoir un usage intéressant aux NFT. » Alors ça, les NFT, mon gars, c'est... Alors, sur le principe, je vais la noter passable et je ne vais pas la noter pété. Et peut-être que ça va énerver certains, Parce que sur le principe, oui. Et très judicieusement, Gandouille utilise le conditionnel. Il dit « il pourrait y avoir un usage intéressant des NFT ». Il ne dit pas « il y a » ou « il y aura ». Il dit « il pourrait ». Et je crois que techniquement, les NFT, c'est un objet technologique intéressant, dont on pourrait peut-être faire un usage valide à un moment. D'un autre côté, force est de constater que nombreux sont les studios, on parle de jeux vidéo, hein, nombreux sont les studios qui ont essayé d'implémenter ça, et en pratique, ça n'a rien donné d'intéressant. On a deux implémentations des NFT. D'un côté, l'implémentation catastrophique de on va faire que les gens vont pouvoir jouer et vendre le résultat de leur jeu. Et ça, tout ce que ça fait, c'est que ça monétise le gameplay. Et j'ai déjà parlé à de nombreuses reprises des raisons pour lesquelles ça ne marche pas. C'est parce que quand tu peux acheter un truc qui est obtenu par gameplay, ça fait que tu externalises le farming des jeux et tu externalises à des gens qui ont beaucoup de temps. Et donc, ça crée, en gros, ce que ça fait, c'est que les effets néfastes qui ont été créés sur Diablo 3 avec l'Auction House, tu le généralises à tous les jeux. Et on a vu à quel point, pas juste sur une question philosophique, de est-ce qu'il faut pouvoir acheter ou vendre des éléments de jeu dans le game design, mais vraiment dans l'effet concret que ça a sur le jeu et le fun du jeu et le design du gameplay, ça a été un effet catastrophique et le NFT, ça généralise ça. Donc il y a eu ça d'un côté, qui a été l'implémentation principale, souvent de startups spécialisées dans les NFT. Et puis, on a eu des sociétés de jeux vidéo traditionnelles qui ont essayé de voir si ça pourrait donner quelque chose. Et là, force est de constater, à un moment, il faut se rendre à l'évidence, ça n'a pas donné quoi que ce soit qui fonctionnait, quoi. Donc, oui, ça pourrait fonctionner, il pourrait y avoir un usage intéressant, mais quand on constate la réalité, on voit bien que ça ne s'est pas fait. Et je crois que là, on a suffisamment essayé pour pouvoir affirmer avec une certaine force que ça ne marche pas. Alors, ça ne veut pas dire que théoriquement, c'est impossible et que ça ne marchera jamais. Peut-être qu'il y aura un designer de génie qui va en faire quelque chose d'intéressant. Au mieux, je pense que ça restera, même si ça se produit, du domaine de la curiosité singulière et que ça ne va pas devenir un composant important sur le long terme de l'industrie du jeu vidéo. Qui sait ? On n'est pas à l'abri, donc passable plutôt que pété, c'est mon avis. UFR nous dit « Last of Us, un gameplay chiant comme la mort, la série est plus intéressante ». You, il sort les hot takes, il sort les armes là, il a envie de provoquer la bagarre. Je trouve que le gameplay de The Last of Us n'est pas sa force principale, mais qu'il est sous-coté. Même dans le premier, dans le 2, il est encore meilleur, mais même dans le premier, le gameplay est bon, le gameplay est fun. Je dirais que « chiant comme la mort », c'est quand même du domaine de la hot take un peu pété, quoi. « Chiant comme la mort », non. Pas la meilleure force du jeu, évidemment. La série est plus intéressante. C'est une expérience différente. Évidemment, c'est différent de jouer au jeu. Je pense que avoir vécu The Last of Us Part 1 et l'avoir joué, je pense que c'est difficile de se dire, quand on est arrivé au bout, qu'une expérience narrative passive est plus intéressante. Donc, UFR, hot take pété, c'est mon jugement. Même si la série a d'immenses qualités, je l'ai beaucoup aimé aussi, c'est évident, mais c'est pas la même chose. Petite Noisette nous dit « L'important pour un jeu vidéo n'est ni son histoire, ni ses graphismes, ni le temps de développement ou les moyens engagés, ni le modèle économique, ni la boucle de gameplay, ni la morale ou l'opinion générale. L'important, c'est qu'il soit divertissant ou inspirant pour une personne ou un groupe de personnes, ce qui signifie globalement qu'un jeu... » Et là, on arrive à la vraie hot take, parce que jusqu'à maintenant, vous allez vous dire « Oui, bon, c'est pas tellement controversé comme idée. » Et là, on arrive à la vraie hot take. Il dit « Ce qui signifie globalement qu'un jeu ne peut jamais être vraiment mauvais, il n'est juste pas fait pour tout le monde. Même un jeu fait avec de mauvaises intentions ou sans volonté artistique ou fait dans le but de vider les poches de ses joueurs mérite d'exister et de trouver son public. Petite noisette, hot take qui va droit à mon cœur. J'ai fait une vidéo, à l'époque où je faisais ma chaîne gaming sur YouTube, j'ai fait une vidéo spécifiquement sur ce sujet. Je disais, un jeu, il n'y a plus, je ne sais plus comment je l'ai formulé, mais je disais, un jeu ne peut pas être mauvais, ou genre, il n'y a plus pas de jeu mauvais. Un jeu mauvais, ça n'existe pas, un truc du genre. Et mon argument, c'était un petit peu, en partie ce que tu dis, mais je disais, les vrais mauvais jeux, c'était des jeux qui, techniquement, il y a une certaine époque, ne tenaient pas la route, et dans le gameplay, ne fonctionnait pas du tout. Et il y en avait beaucoup, je dirais, jusqu'à il y a une quinzaine d'années. Il y avait une époque où les développeurs et les éditeurs investissaient dans de très nombreux jeux à un niveau de qualité qui était, on va dire, celui du double A, qui n'est pas le double A d'aujourd'hui, où le double A est une question de budget et d'ambition du jeu, mais plutôt à cette époque-là, c'était vraiment une question de qualité, quoi. Et on sortait des double A à l'appel, il y avait des éditeurs qui sortaient 30 ou 40 jeux par an, enfin, c'était du shovelware, quoi. On envoyait ça au casse-pipe, et puis on se disait, ça va bien rentrer suffisamment pour rembourser le niveau de développement, le budget de développement. Et c'était des jeux qui étaient juste objectivement mauvais, qui n'étaient pas bien conçus au niveau du design, le gameplay était cassé, les graphismes étaient pourris, enfin bref, c'était objectivement des jeux mauvais. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a quasiment plus. Alors, je parlais de Justice League ou de Avengers ou de Anthem, il y a des accidents industriels, c'est vrai, mais c'est vraiment des exceptions, quoi. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y ait énormément de jeux de cet acabit. Donc, ce qui reste, c'est un petit peu comme dit Petite Noisette, c'est des jeux qui ne sont pas pour tout le monde. Il y a généralement la qualité moyenne des jeux par rapport à il y a 15 ans est absolument incroyable et stratosphérique. Et les jeux mauvais, il y a des jeux qui ne nous plaisent pas. Je pense qu'on peut vraiment le dire depuis quoi ? Une dizaine d'années, quand on a commencé à dire « Oh, cette année, elle est folle, elle est incroyable pour le jeu vidéo », je dirais un petit peu moins de 10 ans, 7-8 ans. Tous les jeux qui sortent sont au moins bons et peut-être pas pour nous, mais vraiment juste pas mauvais, quoi. C'est hyper rare. Donc, cette hot take, moi, je la valide complètement. Je mets 2 ou 3 tampons. Tac, vous les entendez, les tampons que je fais avec la main. Il y a pas de jeux mauvais, quoi. Les jeux mauvais, il y a des accidents industriels qui sont, oui, bon, d'accord, peut-être des jeux qui sont mauvais, mais même cela, on a eu, il y a 10 minutes, le témoignage de quelqu'un qui nous disait, Frag Zero nous disait, Anthem est un très bon jeu. Moi, je vous dis, Marvel, alors par certains aspects, comme pour Anthem, c'est un très bon jeu. Il y a des gens qui aiment beaucoup, vraiment, le gameplay de Justice League. Alors que si on remonte à 15 ans, il y avait des jeux que tout le monde va vous dire objectivement, oui, bon, ça c'est un mot. Et bon, je suis sûr qu'on pourrait en trouver en fouillant, hein, bien sûr, parmi les monceaux de jeux faits par un développeur amateur dans son temps libre et qu'il le met sur Steam pour le fun ou sur itch.io, oui, évidemment qu'il va y avoir des trucs qui sont juste mauvais, bien sûr. Mais d'une manière générale, je pense qu'on peut dire que il n'y a pas de jeu qui est vraiment mauvais aujourd'hui dans cette industrie. Donc, triple validation. Kassim nous dit Final Fantasy XIV est le meilleur JRPG sorti ces dernières années, mais les gens sont aveuglés par la catégorisation MMORPG. Alors, j'ai pas fait Final Fantasy XIV, donc c'est difficile pour moi de juger cette hot take, et je comprends l'idée que c'est juste un bon JRPG, quoi, tout court. Le problème de ce jeu et de Kassim, c'est qu'il dure quand même à peu près 1800 heures. Non, il y a quoi ? 150 heures pour arriver au moment où tu as le payoff. C'est un jeu qui est qui a, au moins de ce que j'ai essayé, parce que j'ai essayé le début, qui est dans le pire de ce qui existe du MMO, quoi. Et du MMO japonais de l'époque où il se lançait. C'est des trucs vraiment rébarbatifs, vraiment longs. Enfin, on a 100 heures de jeu avant d'arriver à un truc fun. Et du coup, est-ce que... Donc, la hot take, c'est le meilleur JRPG. Peut-être, je veux bien le croire. Mais est-ce que les gens sont aveuglés par la catégorisation MMORPG ? Je pense pas. Je pense que tous les témoignages que j'ai eus, c'est que le jeu est incroyable quand les gens ont réussi à arriver au bout, à arriver, on va dire, dans les extensions, dans les dernières extensions où le jeu s'envole, quoi. Donc, le problème, c'est pas qu'ils sont aveuglés par le fait que c'est catégorisé MMORPG. Le fait, c'est que la plupart des gens n'arrivent pas à se battre contre le MMORPG pour arriver à la partie fun, cool du jeu, qui est clairement, enfin, d'après le consensus, une excellente expérience narrative, même du fait, même au-delà du fait que c'est un MMORPG. Donc, ta hot take, Kassim, qui dit que les gens sont aveuglés par la catégorisation, je dirais que c'est une hot take pétée. C'est pas par ça qu'ils sont aveuglés. Il y a plein de gens qui ont essayé, qui ont voulu y aller, mais qui n'ont pas pu parce que le jeu est trop abrupt, il est trop difficile à aimer, il ne nous aide pas à l'aimer. Donc je dirais, ça se pète dans les... Il y a un verre qui tombe, hot take, pété, Kassim, désolé, même si en partie je comprends bien. Toujours Val0200 qui nous dit « La méta ruine les jeux compétitifs plus... » Il n'existe pas un seul jeu compétitif où la communauté n'est pas toxique. Alors, je pense qu'elle est validée, cette hot take, avec un petit astérisque de mon côté. La méta ruine les jeux compétitifs. Le problème, c'est que la méta est impossible à éviter dans un jeu compétitif. La méta, c'est l'optimisation du jeu compétitif, de la composition de l'équipe, des personnages à choisir, etc. Ben, ça, au bout d'un moment, quand un jeu est établi et qu'on y joue pendant des semaines et des mois et qu'il y a toute une communauté de centaines de milliers ou de millions de joueurs qui y jouent, ben, il y a des gens qui vont déterminer une façon optimale pour jouer. Et oui, peut-être qu'on ne pense pas à une autre manière, mais d'une manière générale, oui, il y a une manière optimale de jouer à haut niveau en particulier. Le problème, c'est qu'elle devient souvent figée jusqu'à ce que les développeurs modifient un petit peu, équilibrent le jeu. Et c'est un travail qui ne se termine jamais, parce qu'une fois que c'est un peu équilibré, bah, on retrouve un autre moyen d'optimiser, etc. Et donc, il faut optimiser régulièrement. Il y a des développeurs qui le font plus ou moins régulièrement, et peut-être pas assez régulièrement selon certains. Mais la méta est inévitable. Alors, est-ce qu'elle ruine tous les jeux compétitifs ? Quand il y a des joueurs de plus bas niveau qui disent « Ah bah c'est comme ça qu'ils font dans les compètes, donc c'est comme ça que tout le monde doit faire et on n'a pas le choix, il faut faire ça, sinon moi je joue pas », oui, effectivement, mais ça c'est peut-être plus les joueurs qui eux-mêmes sont pas forcément les meilleurs joueurs au niveau mental, mais bon, oui, c'est indéniable, ça peut arriver. Maintenant, il n'existe pas un seul jeu compétitif où la communauté n'est pas toxique. Peut-être qu'il y en a, je suis sûr qu'il y aurait quelqu'un qui nous dise non, non, quand les communautés sont peut-être un peu plus petites et se sentent la nécessité de se battre contre l'extérieur peut-être, mais quand un jeu est assez populaire, oui, je crois que ça finit par devenir toxique, et je l'étendrai même aux jeux service, parce que quand tu joues au même jeu tout le temps, et c'est de ce genre de jeu qu'on parle, hein, un jeu compétitif auquel tu joues tout le temps, pareil avec un jeu service auquel tu joues tout le temps, au bout d'un moment, la communauté et les joueurs finissent par ne plus voir tous les aspects positifs et se concentre sur les détails. Parce qu'on voit les détails. Au bout d'un... Tu joues 5 heures à un jeu, tu vas voir que les qualités, parce que c'est fun, tu ne te concentres pas forcément sur ce qui ne va pas. Si le jeu est bon, et la plupart de ces jeux dont les communautés deviennent toxiques, c'est des jeux qui sont très bons. Et ça, c'est indéniable. Si on parle de, je ne sais pas moi, World of Warcraft ou League of Legends ou Destiny, qui a PvE et PvP ou tous ces jeux-là, les jeux sont excellents, mais au bout d'un moment tu fais une sorte de burn-out sur le jeu où tu remarques les choses les plus problématiques et tu finis par ne plus voir que ça, et donc tu es obsédé par ces aspects négatifs et tu deviens un petit peu toxique. Je crois que c'est un petit peu le cas, et qu'on aurait on gagnerait à se rendre compte de ce problème et à jouer au jeu de manière un petit peu plus consciente, en se rendant compte que, bah oui, on est obsédé par les trucs qui ne vont pas dans le jeu parce qu'on y joue tout le temps et ça prend une place disproportionnée. Donc, bon, ça, c'est mon analyse de cette hot take, mais je la valide. Je pense que oui. Alors, sur la méta, je discute un peu, mais les communautés toxiques, c'est pas faux. Hippoitos nous dit « On pardonne trop aux jeux japonais leur biais, entre guillemets, sous prétexte d'une culture qu'on n'applique pas à d'autres cultures. » Sous prétexte d'une culture, oui, tu veux dire qu'on excuse les choses en disant oh, « c'est la culture japonaise » et avec d'autres cultures, on n'excuse pas autant en disant oh, « c'est la culture machin ou truc ». Je valide. Voilà, je valide. Je trouve qu'effectivement, il y a un amour du Japon, dont je suis très conscient et que je connais bien aussi, hein, vous le savez. J'ai étudié le japonais pendant longtemps, j'ai étudié la culture japonaise, j'ai vécu au Japon. Bon, je le comprends bien. Mais je suis aussi le premier à dire, oui, bah, on excuse, alors que, en fait, c'est pas vraiment excusable ou acceptable. Bon, après, il y a un niveau auquel tu dis, bah, tu peux pas changer les choses, quoi. Et puis, quand on dit on n'excuse pas dans d'autres cultures, il y a une question de proximité. Tu peux pas considérer une culture qui est la tienne ou qui est proche de la tienne. On va parler des cultures judéo-chrétiennes occidentales, des grandes démocraties occidentales. Bon, on est un petit peu tous dans le même sac, dans le même pot, dans la même histoire. Et bah, tu peux pas ensuite juger de la même manière des cultures qui sont plus éloignées, qui sont étrangères, et puis sur lesquelles tu n'as pas la même légitimité à dire bah non, ça, il ne faut pas faire comme ça, et à dire aux gens, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Même si, concrètement, oui, si on parle de la culture japonaise, évidemment, on va parler essentiellement de questions de représentation des femmes et de sexisme. Oui, bon, le fait est que le Japon et les cultures asiatiques, peut-être on parlait de jeux coréens il n'y a pas si longtemps que ça, les cultures asiatiques sont un petit peu en retard sur la question de l'égalité homme-femme, de l'égalité des sexes. Bon, bah, c'est un petit peu comme ça, et c'est pas... On doit le faire remarquer, bien sûr, je pense qu'on ne va pas le passer sous silence non plus, mais c'est pas en mettant des coups de poing partout, à un moment... On ne fait pas plus avancer les choses, voire on braque certains en essayant de pousser plus que de raison. Je vais dire ça comme ça. Et puis, encore une fois, ce n'est pas forcément à nous d'aller leur dire on peut orienter, pousser, faire remarquer. Mais bon, bah, Tifa, elle est comme ça, elle est comme ça. J'ai dit ce que je pensais de Tifa et puis voilà, c'est dit et on peut pas... ce qu'on peut faire, c'est travailler sur nous et essayer d'influencer par osmose autant que possible, positivement. Le reste aussi. Mais oui, je valide, oui, je trouve qu'on pardonne. Et puis, il y a un petit truc avec le Japon aussi, mine de rien. Il y a un petit truc en plus, au-delà de la question du relativisme culturel qui est évident dans ce domaine ou dans d'autres, en disant le relativisme culturel, vous savez, c'est dire genre, ah, bah, c'est une autre culture, c'est pas pareil, donc on peut rien dire, c'est pas la même chose, donc c'est pas forcément grave, c'est juste que c'est différent. Oui, bon, ça, c'est souvent du relativisme culturel et, à mon sens, ça s'applique souvent pas. Mais, au-delà de ça, il y a le fait que, bah, on voue en France et dans notre génération, et dans beaucoup de générations, un amour démesuré pour le... Pas démesuré, mais un amour, comment dire, déraisonnable pour le Japon, au Japon, et ce qui peut nous conduire parfois à excuser des choses, même en nous-mêmes, au-delà du fait de dire « il faudrait qu'il change et il faut que cette culture sur laquelle on n'est pas légitime change », même si on ne parle pas de ça... on a tendance à se voiler un petit peu la face et à dire « non, j'adore parce que c'est le Japon ». Peut-être quand on est plus jeune, je ne sais pas, ou peut-être qu'on a cette histoire avec le Japon, ça, je suis d'accord, ça a peut-être tendance à arriver, et moi, je valide, c'est un petit peu problématique, et vous savez que j'en parle régulièrement. Blue nous dit « tout le monde peut faire du JV et porter un jeu sur Switch, même un avocat en reconversion après 25 ans de carrière ». Je ne sais pas si c'est une autre que ça. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des outils. Alors, porter sur Switch, c'est un peu compliqué de porter des jeux sur Switch parce qu'il y a le processus de validation de Nintendo et des consoliers en général qui est un peu compliqué. Mais créer un jeu, oui, c'est à la portée d'à peu près tout le monde grâce à des outils. On en parlait dans le Discord, hein, toutes ces hot takes viennent du Discord. Il y a des gens qui disaient oui, avec Godot, avec truc. Même sans parler de vrais moteurs de développement, il y a des outils intermédiaires, il y a RPG Maker, je crois, ce genre de choses. Ou même des outils comme Dreams, qui malheureusement, le développement va s'arrêter, mais des outils comme Dreams ou des trucs comme ça, ou Super Mario Maker, qui permettent de s'adonner à du game design, à du développement de jeux, très facilement. Donc je ne pense pas que ça soit une hot take, hein. Tout le monde peut faire du jeu vidéo, vraiment. Ou en tout cas, commencer à faire du jeu vidéo. Donc, Blue, hot take, c'est un truc particulier parce que c'est pas une hot take. Je ne sais pas si toi, tu es un avocat en reconversion après 25 ans, toi-même, après 25 ans de carrière, mais je dirais que ce n'est même pas une hot take, c'est juste vrai. Donc, ce n'est pas une hot take validée, c'est juste tu as raison, quoi. Voilà. Je vais passer un petit peu du côté de Twitter, tiens. Xavier Eutrop, que vous connaissez peut-être, nous dit « Ils font un Mario Kart Double Dash, c'était un jeu incroyable et c'est criminel de le voir relégué à un souvenir lointain. » Bah écoute, je n'ai pas joué à Mario Kart Double Dash. Ils font un Mario Kart Double Dash numéro 2, c'est ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans Double Dash? Il n'a pas voulu me répondre, donc je ne sais pas, je ne peux pas malheureusement valider cette hot take. Radaken nous dit « Les grosses productions triple A ne sont plus capables de faire des jeux fun. » Alors là, je dirais que c'est une hot take claquée au sol, Ranakel. Je comprends le désamour de certains pour le triple A, des partisans de l'indé. Et je parle souvent du fait que oui, avec les budgets, les triple A doivent faire dans le relativement convenu, et que l'innovation vient plus mécaniquement, c'est normal, du double A, enfin pardon, de l'indé, parce que l'indé c'est des budgets moindres et donc on peut expérimenter. Mais pour moi, ça ne veut absolument pas dire que les triple A sont pas fun. Hot take, pété, il y a évidemment des triple A super fun. En plus, on peut partir dans la définition des triple A et des indés. Je pense que ça serait un autre débat intéressant, mais non. Hot take, pété, Ranakel, pété. C'était sur, je ne dis pas de bêtises, Blue Sky, que Nico Rizon, nous dit, ah mais c'est Nico, oui d'accord, nous dit Spencer devrait quitter son poste, il ne fait pas un bon boulot. Alors, quel est le boulot de Spencer? Faire vendre des Xbox? Clairement, il ne fait pas un bon boulot. Développer des jeux qui font vendre des Xbox? Il ne fait pas un bon boulot. Maintenir la Xbox, la marque et le département et la société dans un état qui pourrait donner quelque chose plus tard. Bon, il a quand même fait énormément d'acquisitions, il a acquis une image sympathique auprès des joueurs. Je dirais que depuis un an, on se rend compte que sa stratégie ne porte pas ses fruits parce qu'il n'y a pas de bons jeux et on en a parlé dans l'émission. Je ne serais pas aussi dur que toi, Nico, en disant « il ne fait pas un bon boulot, il doit quitter son poste ». Je dirais qu'il est peut-être temps que, oui, son travail ne porte pas ses fruits, donc forcé de constater, c'est comme les NFT tout à l'heure, forcé de constater que, il n'a pas réussi. Et donc, peut-être qu'il faut passer la main à quelqu'un d'autre. Je crois que ce n'est pas une idée déconnante à ce stade. Donc, hot take validé. Vous avez des bonnes hot takes quand même, hein, dans l'ensemble. Alors attendez, on arrive à un certain J.K. Loret qui nous dit « Les jeux de Fumito Ueda sont méga surcotés, il faut qu'il apprenne à faire un bon moteur technique. » Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Fumito Ueda, c'est une divinité du développement du jeu vidéo. Il a développé notamment Ico, Shadow of the Colossus, The Last Guardian, voilà, qui sont des jeux vraiment adorés, adulés par les joueurs et surtout par les connaisseurs, les critiques de jeux vidéo, d'une certaine tendance, on va dire, un petit peu création, innovation. Et là, on sent bien la hot take d'un joueur PC. Hein. Il faut qu'il apprenne à faire un bon moteur graphique. Les jeux étaient systématiquement des jeux qui arrivaient, on va dire que c'est peut-être une excuse facile, mais qui arrivaient à un moment où, enfin, qui étaient trop ambitieux par rapport aux capacités des consoles sur lesquelles ils étaient développés. Donc oui, un petit peu. Je dirais que c'est une hot take. C'est un peu une hot take pété quand même, hein, J.K. Un petit peu une hot take pété. Sur la question des moteurs graphiques, oui, mais si on réduit les jeux à la qualité des moteurs graphiques, on ne va pas aller très loin. Donc, un peu pété quand même la hot take. J'aurais tendance à pouvoir peut-être dire passable, mais non, je vais dire pété. Hot take pété. Jean Z nous dit « Bloodborne n'est pas un jeu Lovecraftien. Dredge, oui. » Je crois que Bloodborne n'est pas un jeu Lovecraftien, non. C'est une interprétation peut-être japonaise de Lovecraft, à la limite. Il y a une ambiance, oui, dark, grands anciens, tout ça, mais je ne dirais pas que c'est un jeu Lovecraftien. Est-ce qu'on dit communément que Bloodborne est un jeu Lovecraftien? Est-ce le cas? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Alors, si c'est le cas, oui, validée, hot take validée. Mais si c'est pas le cas, c'est pas vraiment une hot take parce que personne ne dit que c'est un jeu Lovecraftien. J'ai rarement entendu que c'était. Oui, il y a une inspiration Lovecraftienne, mais c'est pas un jeu Lovecraftien. Bon, à préciser. Cyril nous dit, je n'ai pas compris la hype autour de RE4, remake inclus, la boucle de gameplay, arène, vague d'ennemis. Et je demandais à Cyril, est-ce qu'il l'a fait au moment de sa sortie ou est-ce qu'il l'a fait plus tard? Parce qu'au moment de sa sortie, il était vraiment intéressant, mais peut-être que je vais aller dans le sens de sa hot take. Au moment de sa sortie, RE4 était un jeu vraiment intéressant et innovant pour le Japon. Parce qu'il s'inspirait grandement de choses qui étaient quand même assez communes dans le jeu occidental. Donc je me demande si d'une certaine manière, l'aura dont bénéficiait RE4 n'est pas fournie par des gens qui bien sûr connaissaient les jeux occidentaux, mais qui ont vu les gros changements que ça amenait dans le jeu japonais, en sachant, mais quand même en se laissant influencer, là on parle encore du Japon, par le fait que c'était révolutionnaire pour la série RE, Resident Evil, et pour le Japon, alors que bah, si on connaissait déjà les jeux occidentaux, on était un petit peu moins impacté. Donc peut-être une hot take passable, là. On a une hot take passable, allez, passable. Cyril, ta hot take est passable. Avorpal dit, rien d'original, mais dans la course au monde ouvert et au graphisme de plus en plus réaliste, on est dans une impasse artistique totale. Les meilleurs jeux de ces dernières années ne sont ni l'un ni l'autre, sauf Zelda pour l'open world. Alors il nous dit, ce n'est ni des mondes ouverts, ni des jeux au graphisme fou. Alors, c'est sûr que le monde ouvert est devenu formulaïque, on est d'accord. Mais c'est marrant que tu te contredises toi-même, Avorpal, en disant... En citant Zelda, alors Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, moi j'ajouterais qu'il y a quand même eu des jeux qui ont très bien fonctionné. Alors ça, je ne sais pas ce que tu dis ces dernières années, est-ce qu'on compte par exemple Witcher 3 peut-être pas, mais est-ce qu'on compte Horizon Zero Dawn, qui était complètement classique mais vraiment réussi? Est-ce qu'on compte Ghost of Tsushima? C'était la formule de l'open world, mais bon sang, on peut pas dire que c'est pas un bon jeu. On peut pas dire que artistiquement, on est dans une impasse. Oui, c'est un jeu qui tend un petit peu vers le réalisme de l'époque, mais on avait des choses vraiment intéressantes. Et je veux dire, artistiquement, on avait des vues à tomber par terre tout le temps. On avait l'intégration de l'interface à la diégétique du jeu, avec le vent, avec les renards qui nous guidaient, avec les oiseaux, enfin... artistiquement, au niveau du game design, c'était plus que notable, quoi. Ghost of Tsushima, c'était une bouffée d'air frais artistique. Donc, je dirais que c'est une hot take un peu pétée. Tu généralises, oui, il y a beaucoup d'open world qui sont un peu fades, ok, c'est vrai, mais tu généralises en disant c'est l'open world tout court qui est dans une impasse. Moi, je dirais que c'est une hot take pétée. Avorpal, le jugement est impitoyable, ta hot take est pété. Mathieu Huvé dit, les AAA et autres devraient être moins beaux pour que les équipes se concentrent plus sur les mécaniques de jeu et ou sortent plus vite les jeux. Alors, il y a une question de budget, effectivement, moins beau. Tu rejoins, alors pas tout à fait Avorpal, mais moins beau, peut-être, on est déjà un petit peu dans cette mécanique, je crois. Il y a beaucoup de développeurs qui utilisent des graphismes, on va dire, une artisticisation, comment dire, des jeux qui tendent pas vers le réalisme, hein, c'est le cas depuis longtemps. Moi, je crois que c'est pas indispensable. On peut avoir un bon gameplay et une bonne mécanique. C'est pas genre, ah, on a fait des beaux graphismes, donc on n'a pas eu le temps de faire une bonne mécanique de jeu, un bon gameplay. C'est pas les mêmes départements, c'est pas les mêmes... Oui, il y a une question de budget, de temps de développement, mais il y aura toujours des jeux qui vont essayer de tendre vers le réalisme. Et je pense que c'est pas aussi simple que on va faire des jeux moins beaux, donc la mécanique sera plus vite. Donc, il sera meilleur, je veux dire, le gameplay sera meilleur. C'est pas aussi simple que ça, c'est pas des vases communicants. Les jeux plus vite, peut-être un peu, oui, quand tu pousses vers... Mais en même temps, on a énormément d'outils, je veux dire. Unreal Engine 5 te permet de sortir des jeux incroyablement, et on arrive là aux versions qui le permettent, des jeux incroyablement réalistes, entre guillemets, ou qui tendent beaucoup plus vers le réalisme, sans forcément avoir du temps de développement qui est plus grand qu'il y a 5 ans avant, sur la génération précédente. Donc, je ne sais pas, c'est impassable. Je comprends l'intention, mais on va dire que c'est passable. D'ailleurs, Mathieu nous donne aussi une autre hot take. Plutôt que de sortir ou d'annuler Stadia, Google aurait dû créer une IA pour faire le plus gros open world à échelle 1.1 basé sur Google Maps Street View et ses données d'OpenStreetMap, un Flight Sim 2020 à échelle humaine. Que faire dedans? Bon, ça, on ne sait pas. Écoute, je vais dire que c'est une hot take validée. Tu sais pourquoi? Parce que ça va finir par arriver un truc comme ça. Il y a même dans Flight Simulator que tu évoques, hein, Flight Simulator, puisque ça utilise ce genre d'éléments de la vie réelle et de capture de données météorologiques et d'imagerie satellite, etc. Faire un jeu dans lequel on se balade dans le vrai monde avec OpenStreetView, il y a quelqu'un qui va finir par le faire. Il y a quelqu'un qui va finir par le faire. Et je ne sais pas ce qu'on y fera et je ne sais pas ce que ça apportera. Et ça va créer des débats interminables sur « Oh, mais ça ne sert à rien, pourquoi faire ça ? Franchement, vous feriez mieux de faire des jeux intéressants plutôt que ce genre de conneries. » Ok, très bien, oui, ok. Mais il n'empêche que c'est intéressant à tester, quoi. C'est intéressant à essayer. Et oui, ce n'est pas parce qu'on peut qu'il faut, ok. Mais parfois, ça peut être drôle. Donc, moi, je suis pour. Mad Dog sur Blue Sky nous dit « Les journalistes de jeux vidéo se plaignent de problèmes que les joueurs ne rencontrent pas. Le fait qu'il y ait trop de jeux n'embête pas vraiment des joueurs qui ne jouent qu'à 10 jeux par an, et encore plus ceux qui ne jouent qu'à 4 jeux par an, ou 2 ou 3. Que la nouvelle génération de consoles ait du retard est vue comme l'occasion de ne pas repasser en caisse. » Alors, d'une manière générale, effectivement, les journalistes de jeux vidéo se plaignent de problèmes que les joueurs ne rencontrent pas. Peut-être parfois, je dirais, c'est passable comme hot take. Peut-être, oui. Le fait que les jeux n'embêtent pas, le fait qu'il y ait trop de jeux n'embête pas vraiment les gens, il y a quand même une frustration de ne pas pouvoir jouer à trop de jeux. C'est pas une mauvaise chose qu'il y ait trop de jeux, mais ça peut mener une frustration sur les gens qui adorent le jeu. Évidemment, il y a une corrélation entre plus on se définit comme un joueur et on est un core gamer qui aime jouer à tous les bons jeux. Plus c'est frustrant de se dire qu'on va pas pouvoir jouer à tous les bons jeux tellement il y en a. Maintenant, les vrais joueurs, le gros des joueurs, c'est vrai que ça les concerne moins, je suis d'accord. Sur le fait que les journalistes de jeux vidéo se plaignent de problèmes que les vrais joueurs ne rencontrent pas, il y a peut-être un petit peu, c'est vrai, quand tu dois faire un jeu en une semaine, alors qu'il fait 60 heures et que tu dois te le bouffer tous les jours, 6 heures par jour, et puis ensuite faire ta critique. Bah évidemment, tu ne l'expérimentes pas comme un joueur qui va le finir en 3 mois. C'est évident, ou même en 1 mois. Et c'est un exercice que doit faire le journaliste et le critique de jeux vidéo pour essayer de comprendre ça aussi et de l'intégrer à sa critique. C'est vrai, la plupart en sont conscients et essayent de le faire. Mais oui, on ne peut pas avoir la même expérience dans ces deux cas. Et il faut en être conscient quand on lit la critique ou quand on regarde la critique. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Donc, c'est une hot take, j'irais même valider, allez, valider, mais c'est pas que les journalistes n'en sont pas conscients, c'est juste que t'as pas d'autre solution pour tester un jeu, même si on te donne 2 semaines, 3 semaines pour le tester, bah, c'est pas la même expérience que quand tu le testes, tu y joues sur 2-3 mois. Et c'est ce qu'on en retient plutôt de cette hot take, c'est bah, un test de joueur n'est que l'avis d'une personne qui l'a testé de cette manière à ce moment. Et ce n'est pas une vérité universelle sur le jeu. Et tout le monde en est conscient aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu une époque où c'était moins le cas, mais tous les gens sérieux, à part les trolls qui sont énervés pour le principe, tout le monde en est conscient. C'est l'avis d'une personne à un moment T et pas plus. Et c'est quand même un outil hyper intéressant et important pour comprendre un jeu au moment de sa sortie. Enfin, c'est une composante de notre industrie et de l'univers média. Mais ça n'est que ça. Donc, côté calé. On va être gentil, on te la valide parce qu'elle est juste. Je dirais qu'on est quand même un peu dans la catégorie des... c'est une hot take qui n'est pas tellement une hot take parce que c'est pas très controversé, je dirais. Je vais aller regarder un petit peu dans les commentaires suivants qui sont arrivés. Avis très perso, je vais voir sur Twitter notamment. Je n'ai pas totalement aimé la formule monde ouvert. J'ai aimé le jeu... j'ai vraiment aimé le jeu, mais pas cet aspect-là. Je préfère... Ah oui, il répond à quelqu'un, c'était sur Elden Ring, ok. La prochaine Switch aura un système pour jouer en double écran pour pouvoir jouer à tous les jeux DS et Wii U. d'une manière ou d'une autre, sans quoi Nintendo passerait à côté de la chance de se faire plus de blé avec ses abonnements. Double écran. Est-ce qu'on pourrait avoir un double écran avec la Switch d'un côté et la télévision de l'autre, avec une sorte de connexion sans fil pour ça? Il y a peut-être quelque chose là-dedans, Rinaldo. Je dirais que la tech est validée. C'est un truc intéressant pour le double écran pour la Switch 2, validé comme hot take. Ça ne veut pas dire que je pense que ça va se produire. Hein. Les boomers, nous dit Jean Bidule, les boomers sont nostalgiques d'une époque révolue et la vision idéalisée des bouillies de pixels injouables à la difficulté ridiculeusement élevée. J'aurais tendance à dire oui, mais les FromSoft nous donnent un peu tort puisque c'est une façon de faire les jeux qui est quand même assez appréciée aussi. Je dirais que c'est une composante du jeu vidéo qui a sa place, et on va en reparler dans un petit moment dans d'autres hot takes. Haroun Taziev okay, nous dit « Resident Evil 6 est le meilleur TPS moderne !» Ah, le 6, je m'en souviens plus vraiment du 6, c'était avant le 7 et la renaissance de la série. À débattre, à réfléchir. Fibre Tigre nous pense « Je pense qu'on va arrêter de jouer aux jeux vidéo. » Je vais lui répondre « Toi d'abord. » Hop, et oui, hot take pété, cling clang, c'est cassé. Sur Mastodon, il n'y a pas eu du tout eu de réponse. Vraiment, Mastodon, c'est pas la folie hein, dans l'activité dans la sphère francophone. Blue Sky, une position généralement assez tranchée, à contre-courant de l'opinion majoritaire. Les Soulsborne... Ah oui, non, il explique ce que c'est que les hot takes, pardon. Beaucoup de journalistes JV français devraient se contenter de parler de JV au lieu de s'aventurer sur des sujets qu'ils maîtrisent mal, comme l'économie, nous dit Scarou. C'est une idée effectivement intéressante. Peut-être qu'il ne faudrait parler que de sujets qu'on maîtrise. Peut-être qu'on pourrait l'appliquer à d'autres domaines que le jeu vidéo et les journalistes de jeux vidéo. Le problème, c'est qu'il est difficile de ne pas parler du monde en général quand on parle d'un loisir qui est un loisir de pop culture, d'une industrie qui nous tient à cœur, dans laquelle on est impliqué. Je pense qu'il serait peut-être bon d'avoir un petit peu d'humilité dans les jugements qu'on fait dans des domaines qu'on ne connaît pas. Vous savez que je vous dis souvent... j'en parlais même la semaine dernière, je disais sur la question des licenciements, il faudrait qu'on ait plus d'infos, plus de données sur les années précédentes, les embauches, machin. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas non plus avoir d'avis. Peut-être que, selon les préceptes du patrixme, les avis mesurés, les avis pas définitifs, les avis avec des astérisques, les avis avec... Je ne suis pas sûr que ça soit le cas, il faudrait plus d'infos sur tel ou tel truc. Il y a aussi les questions de société en général et de politique sur lesquelles, là, on peut avoir des avis personnels qui sont... En gros, si l'idée, Scarou, c'est de dire les journalistes de jeux vidéo ne devraient parler que de jeux vidéo, déjà, c'est compliqué parce que le jeu vidéo parle du monde, comme toutes les œuvres culturelles. Et puis ensuite, non, on ne peut pas interdire aux gens d'avoir des avis tout court. De la mesure, peut-être, de l'humilité, peut-être, oui, mais pour tout le monde, pas que pour les journalistes de jeux vidéo. Je ne sais pas pourquoi tu dis les journalistes de jeux vidéo français, je pense que c'est le cas partout ailleurs aussi. Mais pour tout, je dirais oui, mais pour tout le monde. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas donner son avis. Donc, passable. La hot take, allez, on va dire passable. Et puis, on a... Bon, ça, c'est pas une hot take. Est-ce qu'il y avait d'autres hot takes avant que je fasse les hot takes finales de Discord? Phil Spencer est en train de tuer Xbox, nous dit Rob. Au vu de la quasi-disparition des jeux physiques Xbox, beaucoup de jeux ne sortent en physique que sur PS4, PS5, Switch. Sarah Bond va-t-elle... sauver la marque. Alors, si ton espoir, c'est que le physique revienne, mon pauvre, je pense que tu vas avoir une mauvaise surprise. Et on peut reprocher beaucoup de choses à Phil Spencer, mais malheureusement, pour ceux qui aiment le physique, ça, c'est pas vraiment de sa faute à lui, le physique. Alors, pour tout un tas de raisons, pour moi, cette hot take, Rob, désolé, elle est pétée, claque. Non, le physique, malheureusement, il est, dans une certaine mesure, voué à disparaître. La raison pour laquelle on a beaucoup de jeux physiques en PS4, PS5 et Switch, c'est qu'il y a des gens pour les acheter. Sur Xbox, tu ne peux pas obliger les développeurs et l'industrie à continuer à pousser des jeux physiques alors qu'il n'y a pas un marché pour ça. Désolé, pété, je suis pas d'accord. Dragomodo nous dit « Les critiques journalistes JV ne semblent plus sentir le marché, ne comprennent plus les joueurs et ce qu'ils attendent. » Pété, Drago! Pété cette hot take! Je ne suis pas sûr que ça soit plus le cas aujourd'hui qu'avant. Ce qui est différent peut-être, c'est que le marché du jeu vidéo est beaucoup plus vaste. On arrive, semble-t-il, aujourd'hui peut-être à un plateau de la croissance du marché du jeu vidéo, mais c'est vrai que depuis peut-être son existence, depuis 30-40 ans, le jeu vidéo est en croissance perpétuelle et donc il est tellement plus vaste qu'il y a beaucoup de types de joueurs différents et les critiques journalistes de jeux vidéo s'adressent à un certain type de ces joueurs qui sont les joueurs historiques, je pense. Donc les core gamers tels que la plupart d'entre vous le sont aussi. Et c'est vrai qu'il y a d'autres moyens de parler du jeu vidéo qui sont peut-être plus adaptés à d'autres types de joueurs, qu'on parle de YouTube ou même de Twitch. C'est des moyens d'en parler qui sont assez différents, qui sont... Bon, je ne vais pas partir... Il y aurait moyen de parler de ça, de débattre de ça pendant plus longtemps. Mais dans ce sens-là, je dirais, oui, il y a différentes manières de parler du jeu vidéo, mais par contre, les joueurs, les critiques et journalistes de JV ne sentent plus le marché, ne comprennent pas ce que les joueurs attendent. Non, je dirais que c'est pété, c'est juste qu'ils parlent à une certaine catégorie de joueurs. Le roadmap de Sony ne fait pas rêver, nous dit Maître Renard. Les jeux Marvel, c'est des navets. Spider-Man 3 et 4, c'est l'overdose. Kratos, c'est le gros bourrin qui casse du rocher avec ses poignets, mais on a besoin de 10 coups de hache pour couper un ennemi taillé en brindilles. Le pire, c'est que quand il est bloqué par un buisson pour aller... C'est quand il est bloqué par un buisson pour aller ouvrir un coffre. Alors, si on parle de Sony, je dirais que ta hot take, elle est un petit peu pétée quand même. Bon, je comprends que tu fasses l'overdose sur Spider-Man et sur les jeux Marvel, très bien. Mais par contre, je pense... Alors, passable, la hot take, parce que clairement, Sony, là, sur l'année qui vient, ils sont en mode disette et il y a très peu de jeux qui viennent de chez eux. Je pense qu'ils se rendent compte qu'ils ont gagné la génération, qu'il n'y a pas vraiment de concurrence au niveau de la Xbox, que Nintendo ne va pas arriver avec sa Switch 2 avant le début de l'année prochaine et que du coup, ils peuvent se la couler douce pendant une petite année, là, quelques mois. Et ils n'ont pas besoin de garder, de dépenser leur grosse balle, de tirer leur grosse balle qu'ils peuvent garder du coup pour le moment où il y aura de la concurrence avec la Switch 2 ou peut-être le moment où enfin des jeux Xbox commenceront à arriver, peut-être. Et donc là, ils se la coulent douce. Donc oui, c'est vrai, hot take passable, parce que la roadmap, elle ne fait pas rêver, mais je pense qu'elle va arriver. Je pense qu'elle va arriver, cette roadmap, et qu'ils se gardent des trucs sous le coude. Allez, les trois dernières hot takes les plus controversées. Nap nous dit « Les jeux vidéo sont infiniment moins bien que les films pour raconter des histoires. » Infiniment moins bien, hot take pété, Nap. Non, ils ne sont pas infiniment moins bien. C'est des expériences différentes, mais tu peux, dans le jeu vidéo, raconter des histoires au moins aussi bien que dans des films. Alors, c'est des jeux vidéo spécifiques, hein, c'est pas tous les jeux vidéo qui vont raconter des histoires, mais pour moi, il y a clairement des moyens de raconter des histoires au moins aussi bien. Tu m'aurais dit, il est plus facile de raconter de bonnes histoires en film, j'aurais pu dire, ok, je peux comprendre la hot take. Mais infiniment moins bien que les films, tu veux dire qu'ils sont, ce que je comprends, c'est qu'ils sont toujours inférieurs aux films pour raconter des histoires ? Je suis pas d'accord. Parce que au-delà même du fait qu'il y a des éléments d'immersion, d'interaction, le jeu vidéo peut te raconter une histoire d'une manière qui est encore plus impactante. Évidemment, je vais vous reparler de The Last of Us, mais il n'y a pas que ça. On peut parler de Edith Finch, de Gone Home, alors c'est un petit peu des Walking Simulator, mais même pas Edith Finch, il y a des moments où on joue et où ça t'impacte, parce que quand tu y joues, je suis sûr que vous aurez d'autres exemples à donner où c'est vraiment intégré au gameplay. Je crois qu'on a des exemples. C'est pas tous les jeux vidéo, c'est même pas la majorité des jeux vidéo, mais je pense que dire infiniment moins bien, c'est là que tu gagnes ton ranking pété pour la hot take. Damaki nous dit « Le jeu vidéo Current Gen est un loisir de riche. » De riche. Alors, il y a un petit problème, on en parlait sur le Discord aussi. Le jeu vidéo Current Gen, qu'est-ce que tu veux dire par Current Gen? Si c'est PS5, Xbox Series, bah, il faut un budget pour acheter la console. Mais donc, bon, ok, dans ce cas-là, oui, il faut le budget pour acheter la console. Et même là, je ne suis pas sûr que ça, je serais d'accord pour dire de riche. Parce que les loisirs, il y en a peu qui sont moins chers que le jeu vidéo, même en prenant en compte une console à 400 euros. Bon, ça, on pourrait en débattre peut-être. Oui, évidemment, si tu vas prendre un ballon et taper à la balle dans la rue, c'est moins cher, on est d'accord. Mais si tu veux faire du sport en salle, si tu veux faire du... Enfin, si on parle des loisirs d'adultes, tu veux faire du vélo, si tu veux, j'en sais rien moi, faire des loisirs, tu veux aller au cinéma régulièrement, je veux dire toutes les semaines, bah, ça coûte un petit peu d'argent aussi, etc. etc. Encore que toutes les semaines, tu as un pass d'abonnement au ciné qui n'est pas très très cher. Mais bon, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Et puis si on prend Current Gen pour dire les jeux vidéo aujourd'hui, alors là, non, Damaki, non. Là, c'est pété de chez pété de chez pété. Combien de jeux gratuits? Combien d'abonnements qui te donnent accès à tout un catalogue? Combien de jeux en solde? Combien de jeux sur un éventail de prix? Il y a des jeux, on en parle toutes les semaines, de jeux super cool à 10, 15, 20 euros. Non, non, Damaki, le jeu vidéo, le jeu vidéo aujourd'hui est un loisir de riche. Méga pété cette take. Désolé Damaki, tu es relégué au fond de la classe. Je te disais sur Discord que je te donnerais un bonnet d'âne. C'est le cas. Le jeu vidéo aujourd'hui n'est pas un loisir de riche. La seule petite porte de sortie, c'est si tu veux dire Current Gen, donc le jeu vidéo sur PS5 et Xbox. À la limite, même la Xbox, il y a une console à 300 boules. Hein, et tu la prends d'occasion. Peut-être que tu peux la payer moins cher. Pareil avec la PS4. Allez, la dernière hot take, c'est une hot take que vous voyez venir évidemment, la plus grosse hot take du jeu vidéo, Kazo, un petit peu accompagné par Val0200 ou 0200, qui nous dit, alors Kazo nous dit, faire un jeu en mode facile histoire ou ayant la solution sur les genoux, ou en ayant la solution sur les genoux est tout à fait acceptable, ok, il n'y a pas de vrai joueur entre guillemets, ok. Tout le monde peut consommer le jeu vidéo comme il l'entend, même s'il ne rentre pas dans le canon de la performance en ayant battu les boss en difficulté extrême, les yeux bandés avec un seul doigt. Ok, jusque-là, on est d'accord, mais attention, la hot take arrive. Et avec ça, les jeux qui conditionnent la progression à la réussite d'épreuves, battre un boss, remplir la mission, sans donner de possibilité de passer outre, participent un peu à cette définition du joueur qui doit être performant. Ouh là 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 là, Kazo. Et Val dit, j'allais dire, tous les jeux devraient avoir un mode facile, des options d'accessibilité, y compris From Software, y compris les From Software, nous dit Val. Alors, les enfants, là, on est dans la hot take méga pétée. Je casse tous les verres qui me restent sur le sol, là. Ce que vous êtes en train de... Alors, je comprends l'idée que c'est bien de proposer... des options d'accessibilité, de facilité pour que tout le monde apprécie le jeu vidéo. Et c'est un débat qui revient régulièrement. Mais mon avis là-dessus, que dis-je, la vérité là-dessus, c'est qu'on ne peut pas philosophiquement interdire l'idée d'un jeu qui soit, où le but soit de surpasser une difficulté. C'est scandaleux cette idée, mes amis. C'est scandaleux qu'on défende l'idée de l'accessibilité dans le jeu vidéo. Bien sûr qu'on défende le fait que jouer en mode facile, c'est tout à fait acceptable et c'est même encouragé pour ceux qui le souhaitent, complètement. Mais allez pousser le potentiomètre, pousser le potard jusqu'à dire tous les jeux devraient avoir l'option d'annuler la difficulté du jeu. Non, mille fois non. Au-delà même du fait que il faut respecter l'intention du développeur de dire « moi, j'aime faire des jeux où le but est d'apprendre le jeu, d'appréhender la difficulté et de passer outre et je veux l'imposer aux joueurs parce que c'est mon intention artistique. » Au-delà de cette idée qui est une idée de l'intention artistique vraiment, philosophiquement, interdire ça, je suis méga contre. Parce que tu dois laisser la liberté au développeur de faire ce qu'il veut. Tu dois, même pas question de développeur, là on retouche à la liberté artistique. Il faut permettre à ces jeux-là d'exister. On ne peut pas dire ces jeux-là n'ont pas le droit d'exister. Un jeu où c'est difficile et où tu n'as pas d'option pour surpasser cette difficulté artificiellement, non, tu dois laisser ces jeux exister, tu dois permettre à ces jeux d'exister. Donc non, Kazo et Val, non, hot take méga pété, il n'y a pas de discussion, ces jeux ont le droit d'exister, même si on, évidemment, ça n'est pas une chose qu'on doit imposer à tous les jeux et qu'on peut encourager. Je veux dire, c'est un exercice qu'on doit pouvoir proposer aux joueurs, qui doit pouvoir être une option. Et les joueurs qui n'arrivent pas à jouer à ces jeux ou qui sont frustrés par l'idée de ne pas pouvoir apprécier ces jeux, bah, que voulez-vous que je vous dise ? Tant pis pour eux. Et c'est juste que si tu transformes ce jeu, si tu imposes la transformation de ce jeu, bah, c'est plus le même jeu. Donc non, non, voilà. La hot take finale, elle est méga pétée. Donc, c'est un petit peu, vous rejoignez un petit peu, je les ai réunis hein, à la fin, vous rejoignez Damaki au coin de la classe, bonnet d'âne, je ne suis pas du tout d'accord. Et comme vous le savez, j'ai toujours raison. Bon, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie pour ce petit exercice bien rigolo. Je ne sais pas si on pourra refaire, peut-être qu'on pourra faire ça pour le rendez-vous tech à un moment. Je ne sais pas si on pourra faire ça pour le rendez-vous jeu parce que je pense que les hot takes vont se répéter. Et puis peut-être qu'on n'est pas obligé de faire une heure à chaque fois sur ces hot takes. Ça peut être un after show marrant pour les patriotes de faire une hot take que je critique comme ça après l'enregistrement d'une émission. Ça peut être rigolo. Mais on verra si on refait. En tout cas, c'était bien rigolo pour moi. C'était bien fun de faire ça en votre compagnie. Je l'ai d'ailleurs enregistré dans un stage en live audio sur Discord, donc j'espère que ça vous a amusé aussi. Et bah, j'en profite pour vous encourager à aller sur le Patreon, hein, sur le Patreon pour soutenir l'émission si vous le pouvez, si vous le souhaitez. Et puis, on verra ce qu'on fait la semaine prochaine. Est-ce que je fais un épisode tout seul ? Est-ce que c'est un épisode normal ? Est-ce que c'est un épisode allégé ? Je sais pas. On verra. Mais en tout cas, je voulais prendre du temps cette semaine et donc mais vous proposer quelque chose quand même. J'espère que vous aurez apprécié et je vous fais de gros 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 bisous à tous et à toutes et on se retrouve très vite. Hein. Soyez-en assurés, on se retrouve très vite pour un autre épisode. Je vous fais des bises. Ciao ciao.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.